Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez à 11h sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon, Barthélémy Gaillard, Tina Young, réalisée par Félicie Faugère et mise en onde ce matin par Ludovic Augier. Nouvelle série dans Culture Monde où, dans laquelle nous allons nous intéresser à ces acteurs, à ces secteurs qui deviennent incontrôlables et sur lesquels les États cherchent à reprendre la main. Demain, nous irons en Chine pour voir comment le président Xi Jinping tente de reprendre la main sur l'économie. Demain, mercredi, il sera question des réseaux sociaux et puis jeudi, des marchés de l'énergie. Mais d'abord, intéressons-nous aux paradis fiscaux.
Now to the explosive report from 150 news organizations based on millions of documents.
The Pandora Papers, a huge leak of documents, reveals the secret offshore dealings of prominent world leaders.
Je demandais de regarder s'il y avait des contribuables français qui figuraient dans cette liste. On va rechercher les contribuables qui ont triché, et ensuite, parce qu'il faut faire les investigations nécessaires, je veux juste le dire avec beaucoup de clarté, je serai intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc français.
L'évasion fiscale et l'optimisation fiscale sont totalement inacceptables. Au sein de l'Union européenne, nous avons parmi les plus hauts critères de transparence fiscale du monde. Mais, comme nous le voyons, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler plus sur cette question. C'est pourquoi nous allons bientôt faire des propositions sur le mauvais usage des sociétés écrans à des fins d'optimisation fiscale, et cela sera fait d'ici la fin de l'année.
On entendait à l'instant Bruno Le Maire, mais également Ursula von der Leyen lors d'un déplacement du côté de la Finlande. Le 3 octobre 2021, le consortium international des journalistes d'investigation, dont fait partie Radio France, publiait une nouvelle enquête d'envergure fondée sur la fuite de près de 12 millions de documents issus d'organismes offrant des services de compte offshore. Ces Pandora Papers font suite à de nombreuses révélations semblables depuis quelques années. Panama Papers, Luxembourg Leaks, OpenLux, etc., etc. Une énième révélation dont qui, une fois encore, révèle l'incapacité des États à faire reculer les pratiques d'évasion et d'optimisation fiscale. Pourtant, depuis la crise financière de 2008 au moins, le problème est parfaitement connu et pris au sérieux par nos responsables politiques qui savent combien elles sont délétères pour les États qui sont alors privés de ressources budgétaires importantes. Alors où en est-on de cette lutte contre les paradis fiscaux? Quelles sont les initiatives dans le domaine? Pourquoi ne parvient-on toujours pas à les faire disparaître? Serait-il comme l'hydre de Lerne de la mythologie grecque dont les têtes repoussent à mesure qu'on les coupe? Pour évoquer toutes ces questions et beaucoup d'autres, nous avons invité ce matin d'abord Vincent Vicard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste au CEPI, responsable du programme Analyse du commerce international. Avec nous également, Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, journaliste éditorialiste à Alternative Économique, auteur de plusieurs ouvrages, Les Paradis Fiscaux notamment, plusieurs éditions, la quatrième je crois, qui était parue chez la Découverte en 2017, et puis plus récemment, Les plus belles histoires de l'escroquerie, c'était au Seuil, mais ça c'était une autre histoire. Bien sûr, alors évidemment, les médias, messieurs, parlent très régulièrement de ces affaires-là, on parlait bien sûr des Pandora Papers, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression, je vais commencer avec vous Christian Chavagneux, qu'on les a un peu vite oubliés, alors que ce sont des révélations qui mettent quand même en somme qui mettent en jeu des sommes absolument colossales. Alors bien sûr, il y a eu d'autres affaires, Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, etc., etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'habituation vis-à-vis de ce phénomène d'évasion, d'optimisation fiscale, et que finalement l'opinion ne s'en offusque même plus, et donc les médias s'y intéressent beaucoup moins?
Non, pas du tout. Cette enquête montre au contraire que les médias continuent à s'y intéresser, et à juste titre. Le mouvement qui de lutte des États contre les paradis fiscaux, en partie, il est né d'une mobilisation de la société civile. C'est parce que depuis 20 ans maintenant, la société civile a dit « attention, là, c'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet. Et vous, gouvernement, vous devez vous en préoccuper », que les gouvernements s'en préoccupent. Du coup, que les médias, et vous avez eu l'impressionnante mobilisation de forces médiatiques qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à avoir ces enquêtes, et ils ont raison de continuer les médias parce que les grands États se sont attaqués. Bon, c'est vrai qu'on ne découvre pas que les riches, que les élites politiques ou économiques utilisent les paradis fiscaux pour dissimuler une partie de leur fortune. Par contre, ce que montrent bien les Pandora Papers, c'est que avant À chaque fois qu'on avait des affaires comme ça, c'était plutôt le secret bancaire qui était pointé du doigt. Et là, on s'aperçoit que ce sont ces entités juridiques bizarres qu'on appelle les trusts. C'est-à-dire, c'est des entités juridiques, on ne sait pas d'où vient l'argent, on ne sait pas où il va et qui en bénéficie. Et on s'aperçoit que les trusts, c'est l'autre problème, l'autre source d'opacité, il va falloir s'y attaquer.
Alors justement, Vincent Ficard, attaquons-nous à ce problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, faisons un peu de pédagogie, ce que sont les trusts?
Alors les trusts, c'est vraiment des sociétés écrans dans lesquelles on peut dissimuler le bénéficiaire effectif de l'argent qui est localisé dans ces sociétés écrans. Donc le problème avec ces entreprises, c'est que elles ont par définition une opacité qui peut servir pour dissimuler de l'argent, pour échapper éventuellement aux lois dans les pays dans lesquels les individus sont localisés. Donc c'est vraiment cette notion d'opacité, de manque de transparence qui a été qui est importante pour les trusts et qui est utilisée par certains pour échapper aux lois et éventuellement échapper à l'impôt. Mais c'est pas seulement échapper à l'impôt, c'est aussi échapper aux lois.
Ouais, c'est ça, c'est les deux. C'est-à-dire on n'échappe pas seulement au fisc, on échappe à une législation nationale.
Éventuellement, en tout cas, c'est un des instruments qu'on peut utiliser pour échapper aux législations nationales. Et c'est un des instruments que les riches individus peuvent utiliser, parce que c'est des mécanismes qui sont chers à mettre en place, et il faut des intermédiaires qu'il faut payer pour mettre en place ces mécanismes. Et donc c'est un des instruments de cet évitement fiscal et réglementaire.
Alors, dans un article, Christian Chavagneux, que vous avez signé dans Alternative Économique, vous proposez trois pistes en réaction à ces fameux Pandora Papers. 1, contraindre les centres financiers d'avoir un registre public des bénéficiaires réels. 2, agir contre les intermédiaires, les fameux intermédiaires. Il va falloir nous dire qui ils sont et comment on fait. Et puis 3, mettre la pression aussi sur la Grande-Bretagne. Parce que l'une des choses aussi qu'on a vues, c'est l'importance de ces îles britanniques dans cette capacité justement à s'extraire de l'impôt, mais aussi des lois nationales.
Oui, tout à fait. On a l'OCDE, cette organisation internationale, s'est attaquée en 2014 à l'autre source d'opacité qui est le secret bancaire. Donc là, bon, c'est imparfait, mais ça avance.
Par contre, on reviendra dessus tout à l'heure.
Par contre, là, sur l'utilisation des trusts, effectivement, on n'avance pas. Il y a des petites choses, on n'avance pas. L'une des méthodes mises en avant, c'est de dire il faut des registres publics des bénéficiaires effectifs réels de ces entreprises. OK, vous pouvez enregistrer, immatriculer une entreprise où vous voulez, aux îles Caïmans, aux Bahamas ou à Jersey si vous voulez, mais il faut absolument qu'on puisse savoir, toute personne qui veut le savoir doit pouvoir savoir qui a ouvert cette société, d'où vient l'argent, où l'argent est placé, qui bénéficie du placement de cet argent. Il faut des registres publics. Il y a quelques pays, le Royaume-Uni notamment, commence un peu à le faire, mais tous les pays ne le font pas. Toutes ces petites îles que vous avez citées, qui sont liées à l'ancien empire colonial britannique, sont très très réticentes à ouvrir, parce que vraiment là, on met beaucoup de transparence, on pourrait savoir d'où vient l'argent et à qui il profite. Il faut absolument avancer de ce point de vue-là. Et puis, Vincent Vicard l'a bien dit, ça coûte cher de mettre en place cette opacité. Donc il y a des intermédiaires qui sont des avocats fiscalistes, des juristes, des banquiers, des spécialistes de la finance, etc. etc. Toutes ces professions de la loi et du chiffre, comme on dit, qui doivent être mobilisées, c'est vraiment une industrie. C'est pas juste des petites personnes qui vont voir leur banquier en passant par la porte de derrière. C'est une industrie de l'opacité, et si on veut vraiment toucher aux paradis fiscaux, il faut toucher aux clients, aux paradis fiscaux, mais aux intermédiaires entre les deux.
Ok, on sait ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on peut y arriver, Vincent Vicard? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, le registre à mettre en place, faut-il encore avoir derrière une volonté politique? Une fois qu'on a dit qu'il va falloir réguler ces îles britanniques, faut-il encore que le gouvernement britannique ait envie? Pas sûr que ça soit le cas, d'autant plus que maintenant, sorti de l'Union européenne, j'imagine qu'on joue encore plus la carte du dumping fiscal. S'attaquer aux intermédiaires, là aussi, Christian Chavagneux le dit, c'est une industrie. Donc il y a évidemment des forces qui vont aller contre ce travail de régulation. Comment on fait? On peut y arriver?
Alors, vous avez raison de dire, il y a la question de la volonté politique. Et je trouve que l'extrait que vous avez passé de Bruno Le Maire est intéressant de ce point de vue-là. Il pointe les gens qui ont fraudé, mais il pointe pas le système. Donc, il dit l'administration fiscale sera intraitable avec les gens qui ont fraudé.
Avec les fraudeurs.
Exactement.
Sous-entendu, il n'y a que des fraudeurs.
Exactement. Et on remet pas en cause le système, parce que effectivement, dans les Pandora Papers, on a un certain nombre de montages fiscaux qui sont légaux, qui existent et qui sont pas forcément condamnés par la loi, mais ça pose la question du système. Et donc, dans quelle mesure on veut lutter contre ce système qui permet à certains individus de pouvoir utiliser ces instruments que sont les trusts pour diverses raisons, mais diverses raisons qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de l'esprit de la loi. En tout cas, peut-être pas de la lettre, mais de l'esprit de la loi. Donc c'est une question. Après, il y a des instruments. Le premier des instruments, c'est déjà d'avoir l'information, donc les questions de transparence qui sont importantes. Après, d'avoir aussi de qualifier ces juridictions qui mettent en place la possibilité d'avoir des trusts, par exemple dans l'Union européenne. C'est beaucoup plus difficile de mettre en place ces types d'entreprises. Il y a des paradis fiscaux, et ces paradis fiscaux, il faut aussi avoir des instruments de lutte contre ces paradis fiscaux. Donc, la première chose, c'est effectivement de mettre en place des véritables listes de paradis fiscaux qui permettent de sanctionner certains pays pour des pratiques qui paraissent abusives, en tout cas qui permettent, qui facilitent l'évitement fiscal de manière générale. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Ces listes de paradis fiscaux qui existent aujourd'hui, elles sont très limitatives et elles demandent justement à voir quelle est la volonté politique derrière mettre en cause certains grands pays. Alors, vous parlez du Royaume-Uni, on a aussi vu les États-Unis avec justement dans les Pandora Papers qui montrent le rôle de certains États des États-Unis qui sont un sujet aussi.
On va en parler des États-Unis. Christian Chavagneux, on n'y arrive toujours pas. La liste, je me souviens, il y a plusieurs années, vous avoir invité exactement sur ce sujet et on avait déjà débattu de cette question de savoir comment est-ce qu'on fait pour mettre des listes en place, selon quels critères, etc., etc. C'était, je crois, il y a 5 ans de mémoire. On n'a pas avancé.
Les listes, ça marche pas. Ça marche pas parce que ce sont des listes établies par les États et donc les jeux diplomatico-économiques jouent tout de suite. On a une liste européenne des paradis fiscaux. Il faut savoir que dans le monde, les plus grands paradis fiscaux dans le monde sont en Europe, au sein de l'Union européenne. Les Pays-Bas, l'Irlande, c'est ça qui sert aux entreprises du monde entier, les entreprises américaines, chinoises, celles qui viennent des pétrodollars, à dissimuler une partie de leurs profits pour pas qu'elles soient taxées. Donc la vraie liste de l'Union européenne, elle devra mettre en tête l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et non, on n'y a pas. Les jeux diplomatico-économiques sont trop forts, donc moi je crois plus aux listes.
Mais c'est pas très très réjouissant quand même. Bon, alors il y a une question qui se pose. Est-ce que quand même on tire les leçons du passé? Souvenons-nous, les Panama Papers, c'était justement 2016. C'était 2016. C'était d'ailleurs à cette occasion que je vous avais reçu, Christian Chavagneux. Ces révélations faites autour de cette grâce aux documents transmis par cet ancien employé qui travaillait dans ce cabinet panaméen Mossack Fonseca. Alors quelques mois après le scandale, on nous avait expliqué, en tout cas le cabinet de conseil avait expliqué qu'il cessait ses activités compte tenu évidemment de la terrible réputation qui avait été provoquée par cette révélation. Vincent Vicard, que sont devenus les avocats qui travaillaient dans ce cabinet, l'activité qui allait avec? Est-ce que tout ce petit monde s'est tranquillement reconverti ou est-ce que quand même il y a eu à la clé, je sais pas, des condamnations, des réajustements fiscaux, enfin un début de résultat quoi, Vincent Vicard?
Alors pour les bénéficiaires de ces montages, effectivement, il y a eu des actions de l'administration fiscale, notamment de l'administration fiscale française, qui a communiqué aussi sur des montants qui ont été recouvrés, etc. Donc, à chacune de ces révélations, l'administration fiscale se saisit des informations et joue son rôle, effectivement, de mettre en conformité les personnes qui sont mises en cause, ou pas, selon s'il y a ce besoin. Donc, du point de vue des bénéficiaires, il y a une action extrêmement claire des bénéficiaires par l'administration fiscale de leur lieu de résidence. Du point de vue de des avocats fiscalistes, ou en tout cas des intermédiaires, au Panama, pour le coup, on a peu de moyens d'action sur ces personnes-là. On a peu de moyens d'action, de manière générale, sur ce qui se passe dans un pays étranger. Il y a des questions de souveraineté qui se posent. Et c'est tout l'enjeu ici.
Mais le gouvernement panaméen, lui, aurait pu faire quelque chose.
Le gouvernement panaméen aurait pu faire quelque chose, mais le gouvernement panaméen crée aussi les lois qui permettent ce genre de régime d'opacité. Et on voit bien, et je pense que c'est un des aspects intéressants des Pandora's Papers par rapport au reste, on voit bien l'évolution dans le temps de ce que proposent justement ces juridictions, ces paradis fiscaux. On voit bien que quand il y a un scandale dans un lieu, il peut y avoir de l'activité qui se transfère dans d'autres lieux, dans d'autres paradis fiscaux.
C'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence?
Alors, je n'ai pas d'informations exactes sur ce qui s'est passé au Panama, mais on voit par exemple que dans un certain nombre de cas, notamment avec l'échange automatique d'informations, on a eu, sur les comptes bancaires, on a eu ce phénomène de, à partir du moment où un pays signait des accords d'échange automatique d'informations, on avait des déplacements de dépôts bancaires dans d'autres paradis fiscaux. Donc il y a cette question-là et c'est qui pose la question finalement plus loin de la coopération internationale. Mettre en cause une juridiction, ça suffit pas. Il faut mettre en cause le système en entier. Et donc, c'est pas la question qui se pose, c'est pas est-ce que l'industrie de l'évitement fiscal ou de l'évasion fiscale au Panama a disparu, c'est est-ce qu'elle s'est transférée dans d'autres pays, et est-ce que au niveau mondial on réduit la possibilité de cette industrie de proposer des schémas fiscaux, et donc ça pose la question de la coopération internationale qui est fondamentale dans ce genre de cas.
On va revenir évidemment sur cette question de la coopération, vous avez raison, qui est absolument centrale. Christian Chavagneux, sur les effets des Panama Papers, et puis plus généralement effectivement quand on voit la liste des paradis fiscaux, vous le disiez, on en a nous ici en Europe, les Pays-Bas, les îles britanniques, la Suisse, il y a beaucoup d'autres pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux, les Émirats arabes unis, Singapour, etc., etc. Est-ce qu'on peut établir une forme de corrélation entre démocratie, état de droit et propension précisément à utiliser le dumping fiscal, ou c'est tout à fait décorrélé?
Non, on voit les travaux de l'économiste français Gabriel Zucman ont montré que dans tous les pays du monde, on a recours aux paradis fiscaux. Alors, un petit peu moins en Corée du Sud, je sais pas pourquoi, on voit que c'est un pays où il y a très très peu d'utilisation des paradis fiscaux. Beaucoup en Russie, et là on comprend un petit peu mieux.
Il y a un sachant que la Corée du Sud, c'est un pays où la corruption est très forte, hein, malgré ce qu'on...
Où la corruption a pu être très forte.
Aucun vice-président... encore en exercice, n'a échappé à la justice en Corée du Sud.
Oui, oui.
C'est quand même rare.
En tout cas, sur les estimations, évidemment, ce ne sont pas les données, mais les estimations qu'on peut faire, ça fait partie des pays dont les élites économiques et politiques, en tout cas les élites économiques ou les plus riches, utilisent a priori le moins les paradis fiscaux, mais on est sur un continuum. Donc, il n'y a pas de lien spécifique entre caractérisation de la démocratie dans un pays et plus ou moins grande utilisation des paradis fiscaux.
Bon, en tout cas, il y a un pays qu'on considère en général comme une démocratie où il y a des paradis fiscaux, c'est les États-Unis.
De nombreuses sociétés échappent également à l'impôt grâce à des paradis fiscaux en Suisse, aux Bermudes et aux îles Caïmans. Et elles bénéficient de niches fiscales et de déductions pour délocaliser des emplois et transférer des bénéfices à l'étranger. Ce n'est pas juste. Nous allons nous débarrasser des failles qui permettent aux Américains qui gagnent plus d'1 million de dollars par an de payer un taux d'imposition plus faible sur ce qu'ils gagnent au capital que les Américains qui reçoivent un salaire. Cette mesure n'affectera que 0.3% de tous les Américains. 0.3%. Et l'IRS va sévir contre les millionnaires et les milliardaires qui trichent sur leurs impôts.
Voilà, là aussi, hein, on souligne cette question de la triche, Vincent Vicard, et on prend comme exemple les Bermudes, les Caïmans, mais Joe Biden aurait pu parler du Delaware, du Nevada, du Wyoming, du Dakota du Sud, ce qu'il n'a pas fait, qui sont des États qui sont considérés, qui sont en réalité des paradis fiscaux. Ça aussi, on l'a peut-être pas en tête, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui sont littéralement des paradis fiscaux.
Oui, ou qu'ils sont devenus pour certains. Enfin, le Dakota du Sud, par exemple, c'est assez nouveau. En tout cas, c'est vraiment apparu dans les Pandora's Papers. On l'avait pas vraiment sur dans notre ligne de mire, en tout cas sur pour ceux qui travaillaient là-dessus, sur ces sujets-là. Et il y a d'autres États, comme vous le soulignez, le Delaware pour les entreprises, l'enregistrement d'entreprises avec des niveaux de fiscalité extrêmement faibles. Voilà, il y a une question qui se pose à l'intérieur des États-Unis, mais enfin, on l'a souligné tout à l'heure, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a la même question qui se pose avec certains États qui sont aussi des paradis fiscaux, alors l'Irlande, Chypre, les Pays-Bas. Donc voilà, on se rend compte que dans tous les pays, il y a cette question-là qui se pose de juridiction qui offre des statuts privilégiés aux grandes entreprises, aux très grandes entreprises et aux très fortunées. C'est vraiment, c'est la caractéristique, c'est les plus grandes entreprises, les plus fortunées qui peuvent en bénéficier.
Oui, à la différence près qui est qu'en Europe, si un État, une nation décide de lutter contre les paradis fiscaux, décide d'imposer telle ou telle règle fiscale, elle va s'appliquer pour tout le monde. Évidemment, la spécificité des États-Unis va rentrer en jeu à plein, et vous pouvez avoir des souhaits au niveau fédéral, mais chaque État peut décider de... Enfin, jusqu'où d'ailleurs chaque État peut décider de sa politique fiscale?
En tout cas, il y a des règles communes. Enfin, typiquement, pour l'imposition sur les sociétés, il y a des règles communes au niveau de l'État fédéral. Après, typiquement, dans le cas du Dakota du Sud, c'est la question des trusts et justement de l'opacité sur les bénéficiaires des trusts qui a été renforcée. C'était des structures qui pouvaient être mises en place pour quelques années, dont la durée de vie a été allongée, etc., de façon à répondre à une demande, justement, de certains intermédiaires qui voulaient justement une modification des lois de façon à pouvoir améliorer ou en tout cas proposer des montages fiscaux. Donc il y a cette question-là qui se pose, et on voit que les États-Unis, de manière générale, ils ont été quand même à l'origine d'un certain nombre d'avancées sur les questions de coopération internationale, sur la lutte contre l'évasion fiscale, que ce soit pour les entreprises assez récemment avec l'accord qu'il y a eu à l'OCDE. C'est l'administration Biden qui a relancé les négociations en mars. Si on revient plus longtemps en arrière, en 2012, on a eu la loi FATCA qui a amené une révolution sur l'échange automatique d'informations sur les avoirs détenus dans les banques, notamment suisses. Donc voilà, les États-Unis, ils ont quand même initier un certain nombre de coopérations internationales sur ces sujets, mais ils conservent sur tous ces sujets-là, ils conservent quand même une spécificité des lois qui sont pas exactement les mêmes lois que les lois internationales. Alors par exemple sur la taxation des entreprises, ils vont garder leur système qui s'appelle le GILTI aujourd'hui, qui est un système qui va être un petit peu différent des systèmes de taxation minimum qui vont être en place dans le reste du monde. Donc il y a toujours cette spécificité américaine qui pousse au niveau international, mais avec des ambiguïtés aussi sur le territoire américain, ambiguïtés qui peuvent aussi résulter du fait que cette autonomie sur certaines règles des États américains par rapport au pouvoir fédéral aussi.
Ambiguïté, Christian Chavagneux, ou carrément double jeu? Juste un chiffre que j'ai trouvé pour que les auditeurs se rendent bien compte, sur le Dakota du Sud, j'ai lu, je ne sais pas si le chiffre est correct, mais visiblement, les fonds sous gestion dans cet État-là, dans le Dakota du Sud, sont de l'ordre de 2 900 milliards de dollars. Ce qui est le plus important du pays, c'est devant New York, par exemple, etc.
Multiplié par je sais pas combien en une dizaine d'années. Vincent Vicard a raison. On découvre un peu le rôle du Dakota du Sud qui est là depuis pas très longtemps. Le Delaware, il est là depuis la fin du 19e siècle. Hein, c'est un avocat new-yorkais qui est venu voir le gouverneur du Delaware en lui disant t'as des problèmes de déficit budgétaire. Si tu permets aux entreprises que je représente de venir s'installer chez toi avec moins d'impôts, tu vas leur demander des commissions pour pouvoir s'enregistrer et puis ce qu'on a appelé à l'époque une franchise. Et avec toutes les entreprises qui vont venir, eh bien, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et honnêtement, le gouverneur du Delaware à l'époque, c'est un démocrate. Il est proche des pauvres. Il mène une bataille fiscale terrible pour taxer les champions du rail à l'époque qui payent pas du tout d'impôts. Donc, c'est un démocrate progressiste. Et pourtant, il dit oui. Et aujourd'hui, le Delaware, il y a plus que la moitié des plus grandes entreprises américaines qui sont installées. Et Moderna quand même, ce labo qui nous a donné les vaccins, Moderna produit au Massachusetts. Sauf que la maison mère est pas au Massachusetts, elle est au Delaware. Et au Delaware, en fait, il y a deux Moderna. Le Moderna normal, si je puis dire, et le Moderna qui gère les droits de propriété intellectuelle, notamment sur les vaccins. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'il y a zéro fiscalité sur les droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est une entreprise qui, pendant 10 ans, n'a rien fait, rien vendu, rien gagné, rien du tout. Il y a une pandémie mondiale qui lui tombe dessus, grand bonheur pour Moderna, avec de l'argent public américain. Avec de l'argent public européen, ils vont se faire des profits absolument phénoménaux. Ils nous revendent ça extrêmement cher. Et au moment où il faut les taxer, eh bien non, ils vont dissimuler leur argent au Delaware.
Et là, ils peuvent échapper à toutes les règles, les fédérales, internationales, rien ne peut y faire.
Taxation des profits au Delaware, 8,7%. Pas d'obligation de rendre public les comptes. C'est pas possible, ça, dans une démocratie. Pas d'obligation de rendre public les comptes. Sur le droit de la propriété intellectuelle, zéro fiscalité. Si le patron de la banque Lehman Brothers, qui a fait faillite en 2008, il a jamais été poursuivi parce que la société a été enregistrée au Delaware et que vous ne pouvez pas poursuivre les gens parce que si vous êtes enregistré au Delaware. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc Joe Biden, je suis entièrement d'accord avec Vincent Vicard. Biden et les autres avant ont permis beaucoup d'avancées au niveau international, mais pour rester crédible, il va falloir que les États-Unis balayent chez eux.
Mais ils peuvent, parce que...
Mais bien sûr qu'ils peuvent. La loi fédérale, elle est là. Elle peut s'appliquer en dépit du fait qu'on a beaucoup d'États. On peut dire, vous descendez pas en dessous d'eux. Vous ne permettez pas que... Et d'ailleurs, au Delaware, il y a déjà eu des choses. Il y a déjà eu de la contrainte au niveau fédéral pour remettre un petit peu plus de transparence. Donc oui, l'État américain...
Donc avec la volonté politique... Donc, peut intervenir. Pour revenir à la question que je posais, finalement, c'est pas de l'ambiguïté, c'est carrément du double jeu, puisque elle pourrait le faire, l'administration américaine, mais elle ne veut pas le faire, visiblement.
Alors, c'est toujours la question. C'est la même question qui se pose au niveau de l'Union européenne. On peut pointer les ambiguïtés de certains États membres au niveau de l'Union européenne. La Commission européenne pousse pour beaucoup de réformes et pourtant, voilà, il y a des, il y a, ben voilà, il y a des, des parties qui ont des intérêts objectifs à maintenir ce système. Et effectivement, il y a une vraie question qui se pose dans les États fédéraux comme les États-Unis, mais aussi des entités supranationales comme l'Union européenne. Il y a une question de concurrence qui se fait éventuellement au détriment de certains pays, et donc il y a un rapport de force qui se met en place. Et ce rapport de force, il est complexe parce que finalement chaque zone a aussi ses propres paradis fiscaux, et chaque paradis fiscal va utiliser justement l'existence des autres paradis fiscaux pour légitimer son existence. Et donc, par exemple, le Delaware a aussi beau jeu de rappeler l'existence de paradis fiscaux en Europe et puis aussi en Asie. Voilà, c'est pas seulement ces deux grands continents. C'est partout dans le monde où il y en a. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud. Et donc, à beau jeu de rappeler que d'autres partenaires, concurrents, ont aussi cette possibilité-là et offrent des avantages substantiels pour les multinationales, pour les riches. Les riches détenteurs de capital. Et donc il y a une sorte de concurrence qui se met en place, et c'est vraiment cette question-là. Effectivement, l'administration fédérale américaine a des moyens, mais c'est coûteux, et ça veut dire aussi de mettre en place des règles qui vont éventuellement être défavorables aux Américains et pas aux Européens. Et donc il y a des questions qui se posent de ce point de vue-là, en tout cas qui sont utilisées par ces juridictions.
Alors, Christian Chavagneux, sur les multinationales, justement, parce que après d'âpres négociations, ça a duré des mois, il y a un grand accord mondial piloté par l'OCDE qui a été annoncé récemment sur l'instauration d'un taux minimum de 15% sur les multinationales, justement. L'accord a été signé par 136 pays, dont les États-Unis, dont la Chine, dont l'Inde, dont trois très gros pays.
Dont les pays africains.
Également africains. C'est un outil qui est vraiment présenté précisément comme une arme contre les paradis fiscaux, hein, et outil de lutte contre le dumping fiscal. Quel regard vous portez sur cet accord? Vous dites oui, c'est une très très grande avancée, ou là aussi 136 pays c'est bien, mais comme c'est pas tout le monde, de toute façon c'est totalement inefficace.
Non, 136 pays c'est plus que bien. Enfin, c'est absolument incroyable que l'OCDE ait réussi à trouver ce compromis. Dans ce compromis, il y a deux piliers. Un premier pilier qui consiste à dire ok, vous transférez artificiellement, vous faites des profits en France, vous les transférez artificiellement en Irlande, et bien la France pourra décider de reprendre un quart de ce que vous avez transféré avec des conditions de rentabilité, mais la France pourra récupérer un quart de ce que vous avez transféré artificiellement et le taxer au taux de l'impôt des sociétés français. Et puis le deuxième pilier, c'est le plus important, c'est ce que vous venez d'indiquer, un taux minimum d'imposition des profits logés à l'étranger. Aujourd'hui, grâce aux paradis fiscaux, le taux minimum, c'est zéro. Donc on passe de 0 à 15. Donc c'est une véritable révolution. Hein, on a le droit aujourd'hui de dire aux multinationales, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez pour aller au Luxembourg, les LuxLeaks, pour aller au Panama, Panama Papers.
Il faudra payer 15%.
Faites tout ce que vous voulez et essayez d'avoir des accords fiscaux secrets en étant imposé 1, 2, 3%. La différence entre 3 et 15, le pays de votre maison mère pourra prendre la différence. Donc le taux minimum, ce sera 15.
Donc accessoirement, ce que vous nous racontiez tout à l'heure à propos de Moderna sera plus possible.
Sauf que pour l'instant, Moderna est en Delaware, ils sont à 8-7, et donc il faut que les Américains, au niveau fédéral, disent il y a une règle déjà d'imposition minimum, des profits logés à l'étranger. Et là, Moderna, aux États-Unis, pourra payer 8-7 au Delaware. Par contre, si Moderna, il faut quand même aussi dire que lorsque la Commission européenne a commencé à négocier avec Moderna, en juin 2020, ils ont ouvert une filiale en Suisse pour pouvoir négocier avec l'Union européenne. Donc là, les profits logés à l'étranger par Moderna, peut-être que les États-Unis vont dire si en Suisse vous êtes taxé à 3% grâce à la Suisse, ben on récupérera la différence. Et donc c'est ça qui fait un peu tiquer quelques ONG, parce que c'est que les pays où il y a les maisons mères qui vont pouvoir récupérer la fiscalité.
Vincent Vicard, sur cet accord-là, vous aussi vous dites accord historique, et puis il faudra nous rappeler le rôle, parce que vous nous avez dit que les États-Unis avaient joué un rôle important dans cet accord-là, il faudra nous le dire lequel.
Oui, accord historique, si on se replace 2 ou 3 ans en arrière, on n'imaginait pas du tout qu'il allait avoir un accord d'une telle ampleur, qui remet en cause vraiment les règles de la taxation des multinationales qu'on avait héritées des années 1920. Donc il faut voir, on a changé de monde et on avait toujours les mêmes règles de fiscalité internationale. Alors voilà, c'est un accord par consensus, et donc forcément on aurait pu imaginer des choses plus ambitieuse, mais il n'empêche qu'il y a une vraie avancée, cette taxation, comme le rappelait Christian Chavagneux, cette taxation de au minimum 15%, là où c'était 0, 1, 2, 3% pour un certain nombre de multinationales.
Ça va rapporter combien? Prenons un pays comme la France, par exemple.
Alors, pour un pays comme la France, alors on a, voilà, la question c'est, on a des estimations, donc les estimations c'est entre 6 et 8 milliards pour la France, pour l'instant, mais après, ça pose la question de quelles sont les règles exactes dans la fiscalité, le diable est dans les détails. Et donc vraiment, les règles exactes qui ont été définies, on a un certain nombre d'exceptions, ce qui s'appelle les exceptions de substance, qui vont aussi renforcer quand même la concurrence fiscale entre les États. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent encore, mais on s'attend, voilà, plusieurs milliards, entre 6 et 8 milliards selon certaines estimations pour la France. Au niveau du mondial, c'est entre 100 et 150 milliards, les estimations. Donc c'est des montants substantiels. C'est des montants aussi qui sont en retrait par rapport à, aux estimations de l'évitement fiscal des multinationales, qui est estimé au moins au double en général pour la France et au niveau mondial. Donc voilà, il y a encore des marges de manœuvre. Beaucoup d'ONG pointent justement que c'est à l'avantage des pays d'origine des multinationales, et notamment de la France ou des États-Unis, qu'on aurait pu avoir un taux de taxation un peu supérieur, etc. C'est des vraies questions qui se posent. Mais c'est une avancée majeure, et pour répondre à votre question, c'est une avancée majeure grâce à l'implication de l'administration Biden. Ces négociations, elles avaient été mises en stand-by par l'administration de Donald Trump. En mars, Joe Biden arrive, et ce qui est intéressant, c'est qu'il lit vraiment la réforme de la taxation des multinationales au niveau international avec la situation américaine, en disant il faut recréer de l'espace fiscal. On a besoin de faire des dépenses publiques, et donc on a besoin de pouvoir lever l'impôt. Et lever l'impôt, ça veut dire pouvoir réaugmenter le niveau de taxation des multinationales américaines. Mais pour cela, il faut aussi que on ait cette capacité à taxer les multinationales au niveau mondial. Et donc, il y a vraiment cette question qui se pose de comment récupérer de la souveraineté fiscale dans un monde mondialisé, globalisé. Eh bien, il faut de la coopération internationale. La coopération internationale, elle permet aux États aussi de s'abstraire un petit peu de la concurrence fiscale et de pouvoir réaugmenter les taux de taxation. Il faut se souvenir qu'aux États-Unis, c'était 35%, on était passé à 21% en 2018.
C'est là où on voit que c'est quand même très compliqué tout ça, Christian Chavagneux, parce qu'on comprend bien que lutter contre les paradis fiscaux, c'est aussi remettre tout à plat d'une certaine manière et penser une réforme de la fiscalité dans son ensemble. Je crois que c'est Thomas Piketty qui, dans une tribune au Monde, pardon, suite justement à ce scandale-là, disait par exemple la question de l'impôt foncier, il faudrait la remettre un peu sur la table. Si vous êtes propriétaire d'un bien qui vaut 300 000 euros mais que vous êtes endetté jusqu'au cou, vous allez payer la même taxe foncière, expliquait-il, que si vous avez le même bien et que par ailleurs vous avez des actifs, des dizaines de millions d'actifs. Donc il y a une forme d'injustice, disait-il, et peut-être à raison. C'est-à-dire qu'il y a aussi là quelque chose à penser, une bonne articulation, ça va aussi avec une réforme fiscale globale en réalité, tout ça.
Oui, Vincent Vicard vient de le dire, si les États-Unis ont poussé, c'est parce que il y a un choix de politique économique, un choix de politique de dépenses publiques qui fait que les grands États aujourd'hui, d'autant plus après la crise financière mondiale, d'autant plus après la pandémie, ont besoin de recettes fiscales. Et donc, vous articulez évidemment votre nouvelle politique fiscale avec la possibilité qu'ont les plus riches et les entreprises d'échapper aux nouvelles règles. Donc, si vous échappez aux nouvelles règles, ça ne sert à rien de mettre des nouvelles règles. Donc, il y a un premier truc à faire, il fallait boucher les trous. Et donc, c'est ce qu'essaye de faire l'OCDE.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On est avec vous, Christian Chavagneux, et vous, Vincent Vicard, dans cette série consacrée aux États, aux défis de la régulation. On parle aujourd'hui des paradis fiscaux. Vous avez évoqué tout à l'heure, l'un et l'autre, la question du secret bancaire en Europe. Et c'est vrai qu'il y a des avancées très importantes qui ont eu lieu. 2017, le secret bancaire disparaît officiellement de l'Union européenne. On se souvient de ce commissaire européen aux affaires économiques, un certain Pierre Moscovici, qui avait déclaré le secret bancaire en Europe. C'est fini au moment d'un accord entre l'Union européenne et Monaco. C'était un peu plus tard, c'était en 2018. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de totale transparence des informations, Vincent Vicard, qui circulent d'une banque à l'autre en Europe? On est vraiment sans obstacle là?
Alors, on a eu des réelles avancées, effectivement, cet échange automatique d'informations au niveau européen. Il y a une vraie transparence sur ces questions-là en Europe. Après, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a d'autres dimensions qui comptent. Et on s'est beaucoup focalisé sur le secret bancaire. On s'est aperçu, là, avec les Pandora Papers, pour le coup, qu'il y a d'autres sources d'opacité, les trusts. Si on reprend les derniers scandales, si on remonte un tout petit peu en arrière, les OpenLux, on s'était rendu compte que dans les sociétés immatriculées au Luxembourg, il y en a une bonne partie pour lesquelles on n'a pas cette capacité à déterminer leurs bénéficiaires effectifs, les personnes qui sont derrière. Et donc, on a eu des avancées réelles sur les questions bancaires, d'échanges automatiques d'informations sur les avoirs bancaires. Et d'une certaine manière, il manque une partie et il y a peut-être une partie qui s'est retransférée, un changement des schémas d'évasion fiscale qui utilisent plus des trusts et moins le canal bancaire.
Mais c'est ça la grande question, Christian Chavagneux. Est-ce qu'il manque une partie parce que on n'avait pas vu l'autre partie, ou il manque une partie parce que tout simplement mécaniquement, d'une certaine manière, en régulant les banques, c'est une autre entité, en l'occurrence des centres offshore, qui ont pris le relais et d'une certaine manière aujourd'hui lutter contre les banques, ça sert plus à rien parce que ça se passe autre part.
Alors, lutter contre les banques, ça continue à servir.
C'est caricature, mais je veux dire.
Ça continue à servir à quelque chose. Le petit point que je préciserai par rapport à ce que vient de dire Vincent Vicard, c'est moi, on me dit que en Suisse, par exemple, il y a certaines petites banques locales qui recommencent à faire des carnets avec du papier et un crayon à papier, parce que tout ce que vous mettez de manière électronique, ça peut être tracé. Donc, on recommence à faire un petit peu d'opacité en prenant un peu de liquide, en prenant un papier et un crayon, et puis vous avez le transfert, l'échange automatique d'informations fiscales, ça consiste à dire, je suis un Français, je veux ouvrir un compte en Suisse, la Suisse va dire au fisc français, tiens attention, il y a un Français qui fait des transactions financières. Je trouve que si j'achète un passeport qui dit que je ne suis pas Français, mais que j'habite aux Bahamas, et que je dis, transmettez donc l'information sur mes transactions financières aux Bahamas. Et les Bahamas, ils n'ont rien à faire, ils ne connaissent pas. Donc il y a des gens qui achètent des faux passeports, y compris au sein de l'Union européenne, pour dire que le transfert d'informations fiscales, là, il est dans le mauvais tuyau. Mmh. Donc, il y a toujours un petit peu... Il faut continuer à lutter contre le secret bancaire. On ne découvre pas le fait qu'à côté du secret bancaire, il y avait d'autres tuyaux qui permettaient de créer de l'opacité, notamment les fameux trusts et toutes ces sociétés écrans. On ne le découvre pas. Sauf qu'on ne peut pas arriver à mener... Le monde ne change pas en claquant des doigts d'un jour sur l'autre. Donc, on a mené une négociation internationale sur le secret bancaire. On vient d'en mener une autre. Vous avez dit toutes les difficultés sur la taxation des multinationales. Maintenant, il reste encore deux choses à faire. La première, c'est de lutter contre les trusts. Et la deuxième, c'est de savoir que les grandes banques internationales utilisent les paradis fiscaux. On revient à ce que disait Vincent Vicard tout au début de cette émission, pour contourner les lois, pour prendre des risques de manière inconsidérée. Ça, c'est marqué dans le compte-rendu du G20 de 2009 qui fait suite à la crise financière. Les paradis fiscaux nous volent des recettes fiscales, mais attention, c'est des endroits où les financiers prennent des risques de manière opaque et de manière inconsidérée. Depuis, rien du tout. Mais rien de rien de rien du tout. Donc il reste encore deux sujets, les trusts côté fiscal et puis le fait que les banques continuent à prendre des risques en passant par les paradis fiscaux. Et ça, il va falloir s'y mettre parce que sinon la prochaine crise financière, elle va venir de là.
Est-ce qu'on peut faire confiance, Vincent Vicard, à l'Europe pour ça? On dit toujours l'Europe, c'est quand même une puissance régulatrice, c'est quand même une puissance normative. On peut faire confiance à l'Europe pour ces sujets?
Alors, c'est ambigu. Du point de vue de la Commission européenne, il y a une réelle volonté de lutter contre cette évasion fiscale, d'harmoniser les règles au niveau européen. Il y a cette prise de conscience que dans un marché... intégré économiquement. Et aujourd'hui, on sait que pour un certain nombre de dimensions, l'Union européenne est aussi intégrée que les États américains. Donc, il y a un marché intégré économiquement. Il faut qu'il y ait des règles similaires. Et donc, on a fait des règles sur un certain nombre de dimensions, pas sur la fiscalité des entreprises, assez peu sur la fiscalité des particuliers. Donc, il y a une volonté de la Commission européenne, et d'ailleurs un petit peu en concurrence avec l'OCDE là-dessus, sur la transparence. Et par exemple, sur la transparence, c'est important parce que les données qui ont été utilisées dans OpenLux, elles ont été fournies grâce à des directives européennes. Donc après, ces données, elles peuvent être utilisées pour ensuite créer du rapport de force, pour ensuite mettre de la pression sur les hommes politiques pour avancer sur ces sujets-là. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des réticences très importantes de certains États membres. On l'a souligné tout à l'heure. Au sein de l'Union européenne, on a les principaux paradis fiscaux au niveau mondial. Et Christian Chavagneux en parlait tout à l'heure. Une des questions, c'est aussi leur importance dans les circuits financiers internationaux. La moitié de la finance internationale passe par les paradis fiscaux, au premier rang desquels, par exemple, le Luxembourg. Et donc, c'est des vraies questions qui se posent en termes de sécurité, de respect des lois, d'évitement fiscal, mais aussi de stabilité bancaire et de stabilité financière qui sont importantes.
On va s'intéresser aussi aux conséquences politiques parce que elles sont aussi réelles. Alors, on a vu par exemple, nous ici en Europe, la défaite électorale d'Andrej Babiš, le Premier ministre tchèque, est peut-être allié à cette affaire-là, puisqu'il était en tout cas dans les sondages en avance et que finalement, il l'a perdu et d'une très très courte tête. Donc, on peut penser que ça c'est une conséquence politique directe de cette affaire-là. On va prendre la direction d'un autre pays, en l'occurrence du continent africain et du Kenya en particulier. Parce que Uhuru Kenyatta, président du Kenya, voilà la fin de son mandat entaché par les révélations des Pandora Papers, qu'il concerne directement lui et sa famille, qui ont utilisé des centres offshore et des paradis fiscaux pour dissimuler leur fortune, la plus grosse du pays, afin d'échapper au fisc. Eh bien, ces révélations sont d'autant plus problématiques que ce président Kenyatta avait voulu placer justement son mandat sous le sceau de la lutte contre la corruption.
Nous pensions qu'en votant pour Uhuru Kenyatta, il apporterait le changement. Cependant, il nous a trahis parce qu'il pille l'argent et l'emmène dans des pays étrangers. Ici, nous souffrons et nous ne savons pas quoi faire.
Les gens souffrent ici. Il n'y a pas d'eau potable. La nourriture manque. Il n'y a rien. Mais notre président nous a volé beaucoup d'argent via ce système. Pourquoi n'a-t-il pas apporté et investi cet argent pour notre pays ?
Voilà, on va s'intéresser donc à ces conséquences politiques de ces révélations. Bonjour, Alexia Van Rey.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse en économie rattachée au laboratoire J-PAL. C'est comme ça qu'on prononce ?
J-PAL, oui.
J-PAL, voilà. Et vous êtes par ailleurs autrice d'un rapport de l'IFRI sur la corruption au Kenya qui est paru il y a quelques semaines maintenant. Le Kenyatta, je disais tout à l'heure, est l'un des 43 responsables politiques africains épinglés par ces Pandora Papers. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été révélé très concrètement à propos du président kenyan dans ces Pandora Papers et aussi la manière dont le président a réagi, parce que c'était un peu inattendu sa manière de réagir.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'ont révélé les Pandora Papers, c'est que la famille Kenyatta, et pas Uhuru Kenyatta seul, détenait un certain nombre de fondations et d'entreprises donc offshore, qui échappent donc aux règles fiscales, dont la valeur totale n'a pas pu être estimée, mais on sait qu'une entreprise détient des actifs qui s'élèvent à plus de 30 millions de dollars. Voilà, sachant qu'on avait déjà l'information que la famille Kenyatta détenait une fortune estimée à un demi-milliard de dollars américains.
Et la réaction du président ?
Voilà, alors la réaction du président Uhuru Kenyatta, alors déjà, elle est entre guillemets à venir, parce que il a promis de s'exprimer sur le sujet, sur en tout cas les accusations qui le concernent à son retour des États-Unis. Donc il est revenu vendredi.
Mais il a fait une lettre quand même, une lettre officielle.
Il s'est brièvement, voilà, tout à fait, il s'est brièvement expliqué, sans en fait répondre, on va dire, aux accusations, mais simplement en faisant l'éloge des Pandora Papers, puisqu'ils apporteraient une meilleure transparence financière dans le pays et de manière générale dans le monde. Donc en fait, sa réaction n'a pas été vraiment sur les accusations qui le concernent, mais plutôt de manière générale sur ce qu'ont révélé les Pandora Papers.
Oui, parce que par ailleurs, ça fait maintenant longtemps qu'il se place en héros de la lutte anticorruption, et d'ailleurs on regardera son bilan en la matière. Mais je voudrais revenir un instant peut-être sur la fortune du président kenyan. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a accumulée, cette fortune, grâce à son statut de président ? Parce que je crois que le papa, qui était aussi président, était déjà assez riche, non ?
Oui, tout à fait. Bon, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit vraiment la famille Kenyatta dans son ensemble qui a été pointée du doigt. En fait, la fortune Kenyatta, elle a été créée dès l'indépendance, lorsque le papa d'Uhuru Kenyatta, donc Jomo Kenyatta, donc est devenu président, bien sûr, du Kenya. Et, entre guillemets, il s'est accaparé les terres les plus riches, vous voyez, du pays. Donc, pour lui, mais également pour son entourage, de manière générale, son entourage politique, économique, a fortiori familial. Et c'est un peu là que s'est constitué le socle de la fortune des Kenyatta. Et après, effectivement, donc Jomo Kenyatta qui était président, puis Uhuru Kenyatta dès 2013, ont enrichi encore la famille à travers des mécanismes qui sont plus ou moins flous, mais qui sont relatifs bien sûr à la corruption, à l'abus de pouvoir, au conflit d'intérêts également. Donc c'est une fortune accumulée depuis voilà, plusieurs décennies.
Et qu'on a fait fructifier en utilisant justement ces sociétés offshore, ces paradis fiscaux. Visiblement, par ailleurs, les femmes qui entourent le président kényan, notamment Ngima Kenyatta, jouent un rôle très important justement dans l'expansion des intérêts économiques et financiers de la famille.
Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement, les sœurs, le frère Muoho et donc Mama Ngina, comme on l'appelle au Kenya, sont extrêmement impliqués en fait dans l'empire économique des Kenyatta. Chacun a entre guillemets son rôle. La mère donc étant à la tête de cet empire et le frère Muoho à la tête des finances de la famille. Donc on a vraiment l'aspect dynastique, vous voyez, de la politique au Kenya qui ressort à travers ces révélations. Ouais, tout
à fait. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes, Alexa Van Rey, parce que d'un côté, effectivement, on fait fructifier son argent à l'extérieur du pays, et de l'autre, on met en place une lutte contre la corruption, sur laquelle il va falloir aussi s'attarder, parce que quand on regarde un petit peu le bilan, d'abord, il semble être un peu mitigé, mais surtout, il semble, et c'est en tout cas ce que révèle très clairement votre rapport, cette lutte anticorruption, elle est assez largement instrumentalisée. Donc, en réalité, on utilise politiquement cet outil-là pour neutraliser ses opposants politiques. Donc d'un côté à l'extérieur, on fait fructifier l'argent et on se fortifie financièrement, on devient absolument incontournable. De l'autre, on bataille contre ses opposants et ce qui vous permet de rester président de père en fils. Je vais un peu vite, mais on n'est quand même pas loin de ce qui est en train de se passer en fait.
Oui, alors effectivement, cette lutte contre la corruption est totalement paradoxale dans la mesure où potentiellement le principal chantre de la lutte contre la corruption, donc Uhuru Kenyatta, est aussi un des principaux bénéficiaires du système de corruption, en tout cas lui et son entourage politico-économique. Donc c'est tout à fait paradoxal, on a un discours extrêmement virulent contre la corruption, des actions qui peine à aller jusqu'au bout. Je dirais qu'il y a quand même des actions qui sont mises en place, des affaires judiciaires entamées, etc. Mais on a vraiment du mal, voilà, à aller jusqu'au bout des poursuites, notamment en raison des liens trop forts en fait entre toutes les personnes très très influentes sur le plan politique. Une personne qui tomberait, ce serait 30 personnes qui tomberaient d'un coup. Donc voilà, il y a extrêmement de liens entre toutes ces personnes. Alors de facto, c'est plutôt l'instrumentalisation politique de la lutte contre la corruption qui prend le dessus. Et effectivement, c'est assez visible ces dernières années que les opposants politiques à la tête desquels est William Ruto sont principalement effectivement pointés du doigt pour leur arrivisme, leur propension à la corruption. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quelque part, certains Kenyans pensent qu'il vaut mieux que quelqu'un comme Uhuru Kenyatta soit à la tête du pays. Il est déjà tellement riche que, d'une certaine manière, il est peut-être moins intéressé, vous voyez, par les pratiques corruptives qu'avoir un président finalement arriviste qui est en train encore de constituer sa fortune, comme par exemple William Ruto, voilà, qui serait beaucoup plus tenté peut-être.
Parce que d'une certaine manière, le travail est déjà fait, donc les Kenyans auraient déjà payé. Voilà, c'est exactement ça que vous voulez dire.
Tout à fait, oui, c'est le discours que tiennent certains Kenyans. Je dirais que c'est pas non plus le discours le plus généralisé, mais là il y a l'idée selon laquelle bon, il est déjà trop riche pour être corrompu, quoi, entre guillemets, c'est déjà trop tard. Alors que William Ruto, qui vient d'un milieu plus populaire, qui a fait sa fortune lorsqu'il était député d'une circonscription, lui est peut-être plus attiré finalement par l'argent en fait, en court parcours. Donc c'est extrêmement paradoxal, ça fait comme les trucs.
Vous disiez, Alexia Van Rey, que cette lutte anticorruption, elle n'était pas non plus un échec total. Qu'est-ce qui a marché? Il y a des faits un peu notables, des histoires un petit peu notables qu'on a réussi où la justice a réussi à aller jusqu'au bout?
Voilà, quand on si je m'en tiens voilà à mes échanges avec certains interlocuteurs, en fait le bilan clairement est très mitigé. On n'a aucun, ce qu'ils appellent les big fish, donc les gros poissons, aucun gros poisson n'a été vraiment épinglé, vous voyez, aucun gros poisson n'est derrière les barreaux, etc. Mais on a quand même eu des avancées, puisqu'on a eu un certain renforcement du pouvoir des institutions de contrôle, comme l'IACC, donc c'est la commission anti-corruption, quelque part, l'auditeur général aussi, qui réalise donc les comptes des comtés, et également sur le plan national, et du directeur des poursuites judiciaires. Donc on a eu un renforcement de ces institutions, en tout cas une vraie vision visibilité, une visibilité accrue dans les médias, ce qui est déjà une avancée en tant que telle. Mais c'est vrai que sur le plan juridique, le bilan est relativement décevant. Mais voilà, sur la visibilité, la démocratisation des affaires de corruption, là-dessus, il y a eu vraiment une avancée, je dirais, ces 10 dernières années, oui.
C'est-à-dire, je voudrais faire réagir nos deux invités, Christian Chavagneux et Vincent Vicard, parce que là, on a une démonstration de ce que ça veut dire aussi politiquement que d'être en capacité, justement, d'utiliser des centres offshore, de faire fructifier sa propre fortune, accessoirement d'utiliser aussi la lutte anticorruption pour asseoir son pouvoir. Mais c'est un cas parfaitement concret, Christian Chavagneux.
J'ai juste deux points. D'abord, il n'y a jamais de limite à l'accumulation de richesses. Donc, dire il vaut mieux mettre celui-là au pouvoir parce qu'il est déjà riche, je pense qu'à partir du moment où on est rentré dans ces stratégies d'accumulation privée, il n'y a aucune limite. Et puis, deuxièmement, c'est intéressant parce que cet éclairage, parce qu'il y avait 140 pays autour de la table pour mettre en place cet accord mondial de taxation des multinationales. Il n'y en a que 136 qui ont signé. Et dans les 4 qui manquent, il y a le Kenya, justement.
Vincent Vicard, en guise de conclusion.
Juste un aspect qui me semble intéressant, c'est que ces entreprises offshore, elles sont aussi utilisées pour comme un moyen d'assurance pour se mettre à l'abri justement des règles nationales et mettre sa fortune en dehors du cadre qui s'applique à tout le monde. Et donc c'est aussi un des aspects, pas seulement l'évitement fiscal, mais aussi tout simplement une assurance de ne pas être poursuivi que en tout cas les fonds ne sont pas en danger par des poursuites locales pour des affaires de corruption ou d'autres.
I feel so good, come payday. I think of all the things I'm gonna buy when I pick up my pay, don't you know? But then they hand me that little brown envelope. I peep inside, in order to lose all hope. 'Cause from those total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. Federal tax. There goes that bracelet for her arm.
Merci infiniment à nos invités. Alexia Van Rijck est avec nous par téléphone. Vincent Vicard, Christian Chavagneux, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin sur ces paradis fiscaux. Les États au défi de la régulation, on poursuivra demain. Je rappelle notamment, Christian Chavagneux, que vous êtes auteur notamment des paradis fiscaux et des plus belles histoires de l'escroquerie. Tout ça retrouve évidemment sur le site de France Culture. On poursuivra demain notre série consacrée à la régulation. Mais pour l'heure, c'est notre revue de presse internationale avec Camille Magnin.
La revue de presse internationale, Camille Magnard.
Et en exclusivité hein, ce matin, Camille Magnard, puisque ce matin, il n'y a pas eu de revue de presse internationale pour cause de grève dans la matinale. Et vous nous annoncez, Camille, ce matin, l'avènement de la démondialisation.
Oh, ce n'est pas tant moi qui l'annonce que l'excellent quotidien suisse Le Temps et son spécialiste de la finance mondiale Sébastien Ruch, auteur d'un dossier donc sur la démondialisation, ses promesses et ses défis. Car oui, le monde d'après n'est peut-être pas qu'un mot ou un concept marketing. La pandémie a bien, nous dit-on, fait exploser le modèle qui dirigeait l'économie mondiale depuis des décennies. L'Asie comme usine à bon marché et des multinationales occidentales, tout ça a volé en éclats quand le Covid a fait fermer ses usines chinoises et asiatiques, quand l'indispensable transport maritime mondial s'est grippé lui aussi. Pour être plus exact, c'est vrai, ces phénomènes liés à la pandémie ont révélé et accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, notamment venues de la Chine, qui ne veut plus être l'usine du monde, mais plutôt développer à la fois ses propres activités à forte valeur ajoutée et la consommation de sa population. Les États-Unis aussi ont compris qu'il devenait dangereux de multiplier les transferts de technologie vers une Chine qui n'était plus qu'un simple exécutant à bas coût, mais bien un concurrent de plus en plus féroce. Et tout cela, donc, écrit Sébastien Ruch du Temps, force nos décideurs occidentaux à repenser cette mondialisation dont ils étaient, il faut le dire, les grands bénéficiaires, pour lancer la relocalisation de leurs moyens de production. Ne plus dépendre ni de leurs sous-traitants à l'autre bout du monde, ni des transports entre les deux. L'aspect très concret de tout cela, ce sont des projets d'usines qui refleurissent en Europe et en Amérique. Usines que l'on nous annonce ultra-automatisées, intégrant les progrès récent de l'intelligence artificielle pour compenser le coût plus élevée de la main-d'œuvre chez nous.
Il s'agit donc bien de ramener la production plus près de ceux qui consommeront les produits.
Oui, la relocaliser confirme le dossier du temps, mais la rendre aussi plus réactive à l'évolution de plus en plus rapide du goût de nos consommateurs. La mode, par exemple, sort de plus en plus du modèle des deux collections par an produites en Asie et commandées des mois à l'avance. Il faut pouvoir créer et produire des séries plus limitées mais adaptées au goût du moment, tels qu'ils sont définis par les influenceurs mode sur les réseaux sociaux. Vous le comprenez, donc cette démondialisation telle qu'elle est en train de sortir des cerveaux de nos grands investisseurs et capitaines d'industrie, elle n'est pas forcément vertueuse d'un point de vue environnemental, on est loin de la décroissance. Il y a aussi, reconnaît le quotidien Genevois, des coûts cachés à cette démondialisation. Ses effets notamment sur le pouvoir d'achat des consommateurs des pays les plus développés, jusque-là gonflés artificiellement par le recours à la main-d'œuvre bradée du bout du monde. Le fabriquer près de chez vous coûtera forcément un peu plus cher. Les entreprises vont voir aussi leurs marges réduites pour limiter cette inflation. Ça leur donnera donc moins de profit, moins de croissance pour des bourses occidentales qui vont perdre en performance. La fin de l'opulence nourrie de la surexploitation des pays moins avancés, donc pour nos économies occidentales, c'est aussi ça, la démondialisation. Et si on en cherche une déclinaison, vu cette fois des pays qui ont jusque-là subi la mondialisation libérale, en Afrique par exemple, eh bien on regardera ce reportage vidéo de la BBC tourné au Bénin autour du projet de développement Sangaï. Il est né dans la tête d'un pasteur nigérian qui ne voulait plus que son continent, qu'il considère comme le plus riche en ressources de la planète, reste éternellement le plus pauvre pour sa population. Il a créé un modèle d'agriculture zéro déchet, créatrice d'emplois et de richesses, qui finance aujourd'hui d'autres innovations sociales, d'autres créations d'activités dans des secteurs bien au-delà de l'agriculture. Il s'agit là aussi, on le comprend, de produire pour les habitants et pas pour l'exportation, de développer ses propres solutions face aux aléas climatiques pour ne plus dépendre ni des anciennes tutelles occidentales, ni de la nouvelle tutelle chinoise en Afrique. Attention toutefois, conclut Sébastien Ruch, du temps. La démondialisation vue comme un rétrécissement d'échelle, une mosaïque de mini-mondialisation régionalisée, ne sera pas forcément plus juste et plus prospère que la mondialisation libérale. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui que s'écrivent ces nouvelles règles du jeu économique planétaire.
Et vous avez été également marqué, Camille, par une longue enquête menée par le reporter du Guardian, Tom Phillips.
On y suit le parcours migratoire de feu Lenilda dos Santos, 49 ans, infirmière brésilienne qui a traversé avec héroïsme les différentes vagues du Covid dans son petit hôpital sous-doté de Vale do Paraíso, dans les profondeurs amazoniennes du Nord-Brésil. Mais Lenilda dos Santos aussi, dont le corps a été retrouvé abandonné, sans vie, fin septembre, dans le désert qui sépare le Mexique des États-Unis. 50 kilomètres qu'il faut traverser à pied pour rentrer illégalement aux États-Unis. Après le passage du Rio Grande, le groupe de Lenilda et de son passeur a dû l'abandonner là parce qu'elle n'arrivait plus à suivre le rythme et elle sera morte de soif, d'après l'enquête menée par les shérifs du Nouveau-Mexique qui ont constaté son décès. Une femme, presque la cinquantaine, brésilienne, qui meurt en voulant immigrer aux États-Unis, c'est très rare comme profil et c'est ce qui a frappé, ému même ces policiers américains qui confient leurs troubles à Tom Phillips. Le reste de l'histoire de l'infirmière Courage, telle que la raconte le reporter du Guardian, achèvera de nous émouvoir. Pour un salaire d'à peine 170 euros par mois, Lenilda dos Santos aura donc passé un an et demi à donner toute son énergie et son courage à son travail pour arracher des dizaines de vies aux ravages de la pandémie au Brésil, le tout sans aucune reconnaissance. Alors pour pouvoir aider ses deux filles à financer leurs études, Lenilda a décidé de partir travailler aux États-Unis, femme de ménage, dans l'Ohio, comme elle l'avait déjà fait plus jeune. Lenilda savait où elle allait, elle y avait toujours des amis, de la famille, même du travail qui l'attendait là-bas. Mais il fallait en passer par le calvaire de l'immigration illégale, les passeurs, les gardes-frontières à éviter, la traversée du fleuve, puis du désert, où elle a finalement perdu la vie. Le récit de cet instinct de survie, finalement fauché par la mort, nous en dit long, à la fois sur le mal que la pandémie fait encore aujourd'hui aux Brésiliens, et sur le coût humain intolérable de la politique migratoire américaine.
Merci beaucoup Camille Manière pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver évidemment sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Jesbert et la Grande Table. We'll be right back.